الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الثامن من شهر الله المحرم من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الحادي عشر من قراءة الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. Nous sommes le 7 septembre 2019 et nous nous réunissons aujourd'hui pour le 11e cours de l'étude de l'écrit intitulé La lettre de Tabouk de l'auteur l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى. Lors de la dernière assise, nous avons écouté ce qu'a dit l'imam رحمه الله concernant l'importance de la constance dans la méditation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et des bienfaits que cela donne à la personne, notamment l'augmentation de la foi. Et il nous a montré que la question de la méditation du Coran varie d'une personne à une autre. Pour cela, il nous a donné les exemples des versets de la sourate Adh-Dhariyat où est racontée l'histoire de la venue des anges au prophète Ibrahim alayhi salam, ces anges qui sont venus à lui sous la forme humaine, afin de l'annoncer d'un enfant qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait lui accorder, ce dernier étant le prophète Ishaq alayhi salam. Il ne s'agit pas de Ismaïl dans ces versets, comme vous le dira l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et il nous a dit que beaucoup de leçons sont à tirer de ces versets et de ce contexte. Et il va nous aider à justement sortir toutes ces leçons, tout ceci en exemple, pour nous montrer que lorsque l'on médite le Coran, on peut comprendre, lorsque cela est fait avec science, bien sûr, on peut comprendre et tirer beaucoup de leçons du livre d'Allah. Mais il y a quelque chose qui est très important à dire, c'est que quand nous parlons de la méditation du Coran et de tirer l'essence profonde du Coran, tant que cela est fait à la manière des Sahaba, à la manière des compagnons, à la manière des pieux prédécesseurs, personne ne peut prendre un verset et faire jouer son propre raisonnement pour en déduire ce qu'il a envie de déduire et dire « La preuve de cette action que je fais, c'est telle parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans avoir été précédée par les sahaba, les compagnons qui ont été éduqués par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont appris de lui le Coran et à le comprendre. Donc la question de la méditation du Coran est une question à bien comprendre afin de ne pas s'égarer et de tomber dans différentes catégories d'égarements, puis les attribuer au livre d'Allah qui en est innocent, subhanahu wa ta'ala. Et dans ces quelques versets, l'auteur va justement nous tirer les conclusions et les leçons bénéfiques de ces versets en nous disant « فَاسْمَعِ الْآنَ بَعْضَ تَفَاصِيلِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ » Écoute à présent quelques détails de ces phrases, cette phrase que vous, ou ces versets que vous allez entendre. « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, dans le premier de ces versets cités par l'auteur, rahimahullah, d'après la traduction rapprochée, t'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables de Ibrahim? Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion aux anges qui sont venus à Ibrahim alayhi salam sous la forme humaine et qui ont été considérés comme des honorables invités auprès du prophète Ibrahim alayhi salam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah attire notre attention sur le premier point. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce que l'on appelle une particule d'interrogation, à savoir « hal », qui va être traduit approximativement par « est-ce que ». Ici, plus particulièrement, t'est-il parvenu? Mais à la base, hal veut dire est-ce que? Mais avec le contexte, on l'a traduit par t'est-il parvenu? Alors, est-ce que le récit est parvenu? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence cette phrase avec une particule d'interrogation, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous interroge pas afin que nous lui donnions une réponse. À quoi cela sert? L'auteur rahimahullah nous dit: افتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام وليس المراد به حقيقته من الاستفهام ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق. Ce qui est voulu n'est pas l'interrogation, bien que c'est ce qui apparaît. Mais certains gens de science ont dit que est-ce que hal a été utilisé ici et a pris le sens de qad, c'est-à-dire que la question a pris le sens de l'affirmation. Ne retenez que ça. La question a en réalité le sens de l'affirmation et de la confirmation. C'est-à-dire, est-ce que le récit est parvenu? Le récit est certainement parvenu. C'est ça qui est voulu. Mais vous allez voir dans ce que va dire l'imam Ibn al-Qayyim la profondeur du Qur'an. Il nous dit: ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له صدر له الكلام بأداة تنبه سمعه وذهنه للخبر فتارة يصدره بألا وتارة يصدره بهل. Il y a un secret derrière cette forme interrogative, c'est que lorsque la personne qui parle s'adresse à son interlocuteur en lui disant quelque chose d'étonnant, quelque chose qu'il incombe de considérer et d'en savoir la valeur ou la grandeur, pour attirer l'esprit de l'interlocuteur, la personne va souvent utiliser une particule qui peut être interrogative, qui va servir à attirer. Comme si tu voulais parler d'un sujet immense à une personne à qui tu dirais, pour attirer son attention, « Sais-tu ce qui vient de se passer ?» Et qu'est-ce que cela va mettre dans l'esprit de la personne? Toute son attention va être attirée. Parce que si tu lui as posé cette question, c'est bien parce que ce que tu vas lui dire est quelque chose de très important. Et la personne ayant compris cela va justement écouter attentivement ce que tu vas lui dire. Et bien ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous disant « هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين » dans le sens rapproché, t'est-il parvenu le récit des honorables invités d'Ibrahim alayhi salam? C'est justement pour te montrer l'importance de ce qui va suivre. فَيَقُولُ هَلْ عَلِمْتَ مَا كَانَ مِنْ كَيْتَ وَكَيْتَ إِمَّا مُذَكِّرًا بِهِ وَإِمَّا وَاعِظًا لَهُ مُخَوِّفًا وَإِمَّا مُنَبِّهًا عَلَى عَظَمَةِ مَا يُخْبَرُ بِهِ وَإِمَّا مُقَرِّرًا لَهُ. Donc on va souvent utiliser cette forme-là, que ce soit pour faire une exhortation, pour parler de quelque chose qui mérite considération, pour attirer l'intention de l'interlocuteur et autres. Il nous donne quelques exemples retrouvés dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَقَوْلُهُ تَعَالَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى, dans le sens de tous les versets qui vont suivre. T'est-il parvenu le récit de Moussa? Et vous savez que le récit de Moussa alayhi salam est grandiose. Mais aussi, وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ, le récit de l'enveloppante, t'est-il parvenu le jour dernier? هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ, etc. À chaque fois quand on dit « est-ce que » dans ce genre de verset, ce qui est voulu par l'interrogation n'est que d'attirer l'attention sur ce qui va être très important qui va suivre. Avez-vous compris cela? Ça, c'est le premier enseignement tiré de ces versets. D'où est-ce qu'on l'a tiré? Dans la première lettre de ces versets, on n'est même pas encore entré dans ce qui va suivre. Ça, c'est pour vous montrer que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah veut nous dire, le Coran se médite, le Coran se comprend. Il a été révélé pour cela. L'auteur nous dit, mutadamminun li ta'zimi hadhihi al-qisas wa at-tanbihi ala tadabburiha wa ma'rifati ma tadammanat. toutes ces particules interrogatives utilisées dans ces phrases différentes que nous venons d'entendre servent à donner la considération aux histoires qui justement sont citées après et nous appellent à les méditer. وفيه أمر آخر وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك عالم من أعلام النبوة. Il y a aussi dans cette particule quelque chose de grandiose encore une fois. C'est qu'il y a dans cela la preuve de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Il ne pouvait pas connaître le récit de toutes ces nations passées, notamment celle d'Ibrahim alayhi salam, mais aussi des autres qui sont cités dans le Coran. Le fait qu'il les cite avec détail montre qu'il a reçu la révélation. C'est donc une preuve qu'il est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'aurait pas pu raconter des choses qui se sont déroulées dans le passé sans qu'on ne lui donne l'information. D'où vient-elle? Elle vient de la révélation d'Allah. فَإِنَّهُ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ فَهَلْ أَتَاكَ مِنْ غَيْرِ إِعْلَامِنَا وَإِرْسَالِنَا وَتَعْرِفِنَا أَمْ لَمْ يَأْتِكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِنَا. Allah Azza wa Jal dit donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces choses relèvent de l'invisible, qu'il n'aurait jamais pu connaître si Allah ne lui en avait pas fait part. فَانْظُرْ ظُهُورَ هَذَا الْكَلَامِ بِصِيغَةِ الْإِسْتِفْهَامِ وَتَأَمَّلْ عِظَمَ مَوْقِعِهِ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ يَشْهَدُ أَنَّهُ مِنَ الْفَصَاحَةِ فِي ذِرْوَتِهَا الْعُلْيَا. Et tu vois le sommet de l'éloquence de la langue arabe dans ces versets. وَقَوْلُهُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ. Quant à la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens rapproché, les honorables invités d'Ibrahim. Qu'est-ce que l'on peut tirer comme leçon de cette parole? مُتَضَمِّنٌ لِثَنَائِهِ عَلَى خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمِ فَإِنَّ فِي الْمُكْرَمِينَ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا إِكْرَامُ إِبْرَاهِيمَ لَهُمْ فَفِيهِ مَدْحٌ لَهُ بِإِكْرَامِ الضَّيْفِ وَالثَّانِي أَنَّهُمْ مُكْرَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ كَقَوْلِهِ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ أَيْضًا لِتَعْظِيمِ خَلِيلِهِ وَمَدْحِهِ إِذْ جَعَلَ مَلَائِكَتَهُ الْمُكْرَمِينَ أَضْيَافًا لَهُ. سبحان الله. Ibn al-Qayyim رحمه الله nous dit: il y a dans ces quelques paroles le fait d'avoir dit les honorables invités d'Ibrahim alayhi salam des louanges ou les éloges qui sont faits à Ibrahim. On nous montre qu'Ibrahim est grand chez Allah Azza wa Jal. Pour quelle raison? Deux paroles ont été citées chez les savants. La première étant, quand nous disons dans le verset les honorables invités d'Ibrahim, c'est-à-dire que Ibrahim a honoré ses invités. Et ça, c'est une éloge qui est faite à cet homme qui est Ibrahim alayhi salam. Car Ibrahim est quelqu'un qui sait honorer ses invités. Et vous savez que l'invité doit être honoré. Donc c'est une éloge qui est faite à Ibrahim alayhi salam. La deuxième parole est de dire que les honorables invités d'Ibrahim, c'est-à-dire qu'ils sont honorables chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est aussi une éloge à Ibrahim alayhi salam, puisque cela veut dire qu'Allah azza wa jal a choisi comme invité pour Ibrahim ceux qui sont chez lui honorables. Et s'il a choisi ceux qui sont chez lui honorables, pour Ibrahim alayhi salam, c'est que Ibrahim alayhi salam est honorable chez Allah. C'est donc une éloge qui est faite à Ibrahim alayhi salam. فَعَلَى كِلَ التَّقْدِرَيْنِ وَاللَّهِ الْعِلْمُ شَيْءٌ عَجِيبٌ. La science est étonnante. فَعَلَى كِلَ التَّقْدِرَيْنِ فِيهِ مَدْحٌ لِإِبْرَاهِيمِ. Quoi qu'il en soit, dans les deux explications, il y a des éloges qui sont faites à Ibrahim. Continuons. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. Ses invités lui ont dit, donc en arabe, سَلَامًا. Ibrahim leur a répondu « Salamun ». C'est différent, n'est-ce pas? Je vais ici simplement vous résumer car il y a des notions de grammaire arabe à connaître pour vraiment comprendre ce qui est voulu, mais en vous résumant, vous comprendrez. L'auteur dit « Mutadamminun li madhin akhar li Ibrahim haythu radda alayhim ahsana ma hayyawhu bihi. » Ibrahim alayhi salam leur a rendu la salutation par meilleur que ce que eux lui ont donné. Car eux lui ont dit salaman, et lui leur a dit salamun. Et en arabe, ça ne veut pas dire la même chose. Oui, on parle de la salutation, le salam. Mais cette force du salam, lorsqu'elle est dite salamun, n'est pas comme salaman. Et après, pour savoir en détail, apprenez la grammaire arabe. Mais ici, l'auteur dit فَإِنَّ تَحِيَّتَهُمْ بِسْمٍ مَنْصُوبٍ مُتَضَمِّنٌ لِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ تَقْدِيرُهُ سَلَّمْنَا عَلَيْكَ سَلَامًا وَتَحِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ لَهُمْ بِسْمٍ مَرْفُوعٍ مُتَضَمِّنٌ لِجُمْلَةٍ إِسْمِيَّةٍ تَقْدِيرُهُ سَلَامٌ ثَابِتٌ أَوْ دَائِمٌ أَوْ مُسْتَقِرٌ عَلَيْكُمْ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْإِسْمِيَّةَ تَقْتَضِي الثُّبُوتَ وَاللُّزُومَ وَالْفِعْلِيَّةَ تقتضي التجدد والحدوث فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. Lorsque Ibrahim alayhi salam leur a dit salamun, alors que eux lui ont dit salaman, il y a un secret qui se cache derrière la langue arabe, notamment la grammaire, c'est que la réponse à Ibrahim est meilleure que le salam que eux lui ont donné. Car en disant salamun, c'est comme si Ibrahim voulait leur dire « Je vous salue constamment. » Alors que eux, en disant « Salaman », ils l'ont salué une fois. Ça, c'est le résumé de ce qui vient d'être dit. Ça vous amène au but. Donc, on voit qu'Ibrahim leur rend un salam qui est meilleur. Et comme vous savez, Allah Azza wa Jalla a dit « وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَرُدُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا فَحَيُّوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Et quand on vous fait une salutation, répondez par une salutation meilleure ou rendez-la par son équivalent. Ibrahim alayhi salam rend la salutation par une meilleure. ثم قال قوم منكرون. Puis Ibrahim alayhi salam donc leur a dit قال السلام قوم منكرون. Quand ils entrèrent chez lui et dirent salam, il leur dit salam. Visiteur inconnu. Il y a ici un comportement envers l'invité qui s'est manifesté chez Ibrahim alayhi salam. L'auteur dit wa fi hadha min husni mukhatabati ad-dayf wa at-tadhammum minhu wajhani min al-madh. Il y a deux bons comportements qu'a eu Ibrahim alayhi salam envers son invité, le fait de bien lui parler et la pudeur envers son invité. At-tazammumu minhu, la pudeur ou la honte de tenir des propos qui ne conviendraient pas avec l'invité. Ahaduhuma, la première chose, annahu hadhafa al-mubtada wa taqdiru antum munkarun. Fatazammama minhum wa lam yuwajihhum bi hadha al-khitab lima fihi min ba'd al-istihash. Ibrahim alayhi salam ne leur a pas dit salam au vous les visiteurs inconnus. Il ne leur a pas dit au vous les visiteurs inconnus, mais il a dit salam visiteurs inconnus, sans dire vous, c'est-à-dire vous êtes des visiteurs inconnus. Il ne les a donc pas affrontés en leur disant vous, visiteur inconnu. Pourquoi? Car en s'adressant ainsi à l'invité, ça le mettra dans la gêne. Ce que Ibrahim alayhi salam ne voulait pas faire. Bien que pour lui, ils étaient inconnus. Mais il a choisi la meilleure façon de leur dire. Au lieu de leur dire vous, les visiteurs inconnus, il leur a dit visiteur inconnu. Et cela suffit. وَلَا رَيْبَ أَنَّ حَذْفَ الْمُبْتَدَى في مثل في هذا من محاسن الخطاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه احدا بما يكره. Le prophète عليه الصلاه والسلام ne faisait pas directement face à une personne avec ce qu'elle détestait. بل يقول ما بال قوم يقولون كذا ويفعلون كذا. Lorsqu'il voulait blâmer, il disait mais qu'est-ce que des gens ont à faire telle chose, mais qu'est-ce que des gens ont à dire telle chose. Et dans l'assemblée qui était devant lui, les gens concernés étaient là. Au lieu de leur faire face directement pour leur dire, il fait passer le message de manière générale. Car le but étant de faire accepter le message, non pas de faire fuir la personne. La deuxième chose que l'on tire, قَوْلُهُ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ, le fait d'avoir dit visiteur inconnu, فَحَذَفَ فَاعِلَ الْإِنْكَارِ. On voit qu'ici, Ibrahim a.s. n'a pas cité qu'il est celui qui les trouve inconnus. Il a dit visiteur inconnu. Il n'a pas dit visiteur que moi je trouve inconnu. Vous avez compris? وَهُوَ الَّذِي كَانَ أَنْكَرَهُمْ, alors que c'est lui qui les a trouvés inconnus. Comme Allah nous dit dans un autre verset, نَكِرَهُمْ, il les a trouvés inconnus, de manière très explicite. Mais en s'adressant à eux, il ne leur a pas dit, je vous trouve inconnus. وَلَا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَهُمْ مُنْكَرٌ أَلْطَفُ مِنْ أَنْ يَقُولْ أَنْكَرْتُكُمْ, le fait de leur dire inconnu est plus doux que leur dire je vous trouve inconnu, je ne vous connais pas. Ça, c'est un adab, un comportement qu'Ibrahim a.s. a eu. وَقَوْلُهُ, la suite, فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجِلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مُتَضَمِّنٌ وُجُوهًا مِنَ الْمَدْحِ وَآدَابَ الضِّيَافَةِ وَإِكْرَامَ الضَّيْفِ. Dans le sens rapproché, puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite, il l'approcha d'eux. Ne mangez-vous pas, dit-il. Dans ces phrases-là, il y a encore une fois des éloges qui sont faits à Ibrahim alayhi salam, et l'on voit aussi la manière d'honorer l'invité et la façon de lui parler. Dans quoi? Premièrement, quand Allah Azza wa Jal dit فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ, qui a été traduit ici approximativement par « puis il alla discrètement à sa famille ». Le verbe « rara » qui a été traduit de cette façon a un sens plus précis. Le verbe « rara » « arrawaran » nous dit l'auteur « al-dhahabu fi sur'atin wa ikhtifa ». C'est une action qui consiste à aller rapidement et discrètement. Il s'agit donc de se dépêcher mais sans se faire remarquer. On appelle cette action ar-rawaran. Le verbe est rara. C'est ce qu'a fait Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépêché, il s'est empressé discrètement d'aller vers sa famille. Wa huwa yatadammanu al-mubadarata ila ikram al-dayf. On voit premièrement l'empressement pour honorer l'invité. Il n'a pas attendu, mais il s'est dépêché. Et il l'a fait discrètement, donc il a su honorer son invité rapidement, mais aussi il l'a fait discrètement. Pour quelle raison? Pour quelle raison Ibrahim a.s. ne s'est pas manifesté devant son invité? Pour ne pas le gêner. Car l'invité, ou celui à qui l'on donne quelque chose, lorsque l'on fait devant lui, lorsque l'on donne, et ce que l'on va chercher ce qu'on va lui donner devant lui, ça le met mal à l'aise. Ibrahim alayhi salam veut mettre à l'aise ses invités. Alors il se dépêche d'aller chercher ce veau qu'il va sacrifier et qu'il va leur offrir et proposer en nourriture. Mais en même temps, il le fait discrètement pour ne pas les mettre dans la gêne. Allahu Akbar. L'auteur dit, وَالِخْتِفَاءُ تَرْكُ تَخْجِيلِهِ وَأَلَّا يُعَرِّضَهُ لِلْحَيَاءِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ يَتَثَاقَلْ يتبادر على ضيفه ثم يبرز بمرأ منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأ منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه فلفظة راغ تنفي هذين الأمرين. Le fait que Ibrahim عليه السلام s'est précipité et l'a fait discrètement est une bonne conduite envers l'invité afin qu'il ne soit pas dans la gêne et qu'il soit le plus décontracté et apaisé possible, contrairement à ceux qui font tout devant l'invité et vont même jusqu'à chercher la somme d'argent qu'ils vont lui donner devant lui. Il est déjà mal à l'aise, peut-être, parce qu'il n'est pas dans ses repères et ses habitudes, puis la personne va se lever et elle va ouvrir un tiroir, par exemple, ou un lieu de rangement pour prendre une somme d'argent devant elle, puis venir devant elle. Tout ça la met mal à l'aise, cette personne qui est invitée. Ibrahim alayhissalam, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher un veau qu'il va sacrifier et qu'il va leur donner à manger, mais il va le faire discrètement. Et ils vont le voir au dernier moment, c'est posé devant eux. Il y a moins de gêne, c'est plus facile pour eux. Aussi, quand on voit qu'Ibrahim alayhissalam s'est précipité discrètement, vers qui? Vers les gens de sa famille. Faragha ila ahlihi. Puis il se précipita discrètement à sa famille. Qu'est-ce que l'on voit? Une éloge qui est faite à Ibrahim et sa famille. L'auteur nous dit, madhun akhar, lima fihi min al-ish'ari bi anna karamata ad-dayfi mu'addatun hasilatun 'inda ahli wa annahu la yahtaju ila an yastaqrida min jiranihi wa la yadhhaba ila ghayri ahli idh nuzul ad-dayfi hasilun 'indahum. C'est une éloge à la famille d'Ibrahim. Car on voit ici que honorer l'invité est connu chez sa famille, de telle sorte à ce que Ibrahim a.s. reçoit subitement des invités et n'ait pas besoin d'aller demander aux voisins, aux amis, aux camarades ou autres, prête-moi telle chose, accorde-moi telle chose, non. Honorer l'invité, c'est prêt chez Ibrahim a.s. et chez la famille d'Ibrahim. Il lui a donc suffi d'aller chez sa famille, prendre ce veau et le proposer en nourriture à ses invités. Car les gens de sa famille ont l'habitude et savent l'importance d'honorer l'invité. Wa qawlu faja'a bi'ijlin samin. Ibrahim vint à eux avec un veau gras. On fait encore les éloges d'Ibrahim de trois manières. La première, ahaduha khidmatu dayfihi bi nafsihi. Fa innahu lam yursil bi wa innama ja'a bihi bi nafsihi. Ibrahim a.s. a honoré personnellement ses invités. Il est allé voir les gens de sa famille pour prendre ce veau et il est revenu leur servir de sa propre personne. Et vous savez que quand l'invité est honoré par la personne directement, sans intermédiaire, sans serveur, sans personne pour l'aider, l'effet est plus grand chez la personne. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La deuxième chose, الثاني, أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. Ibrahim a.s. est venu à eux avec le veau qu'il leur a proposé en nourriture entier. Pourquoi n'est-il pas venu avec un morceau? Pourquoi n'a-t-il pas dit la cuisse est meilleure, l'épaule est meilleure, le cou est meilleur? Afin que son invité puisse lui-même choisir ce qui pour lui est meilleur. Ça, c'est la meilleure façon d'honorer ton invité. C'est de lui poser, de lui proposer tout pour que lui choisisse ce qui est meilleur. Et ça, c'est connu chez les gens qui savent honorer leurs invités. Puisse Allah nous donner ses caractères et comportements. Troisièmement, ثالثاً, أنه سمين ليس بمهزول. Le veau qui leur a servi était un veau qui était gras. Il n'était pas maigre. Il était riche, donc, en viande. وَهَذَا مِنْ نَفَاسِ الْأَمْوَالِ. Cela montre que ce sont les biens précieux qui ont été proposés à l'invité. وَلَدُ الْبَقَرَ السَّمِينَ. Le veau gras. فَإِنَّهُمْ يُعْجَبُونَ بِهِ. Il va certainement leur plaire. فَمِنْ كَرَمِهِ هَانَ عَلَيْهِ ذَبْحُهُ وَإِحْضَارُهُ. Parmi ceux qui nous montrent son hospitalité et son savoir-faire dans le fait d'honorer l'invité, c'est que pour lui, ça n'a eu aucune valeur de sacrifier personnellement ce veau gras, ou particulièrement ce veau gras, et leur offrir, car ils sont leur invité. وَقَوْلُ إِلَيْهِمْ. Le fait que Allah Azza wa Jal dit فَجَاءَ بِعِجِلٍ سَمِينَ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. Ensuite, il l'approcha d'eux. Donc non seulement il leur a apporté un veau gras, mais en plus de cela, c'est lui-même qui va l'approcher d'eux et qui va leur tendre ou leur mettre à portée de main. مُتَضَمِّنٌ لِمَدْحٍ وَأَدَبٍ آخَرٍ. Il y a dans cela une bienséance et un beau comportement. Et il y a même une éloge faite encore une fois à Ibrahim a.s. وَهُوَ إِحْضَارُ الطَّعَامِ إِلَى بَيْنَ أَيْدِي الضَّيْفِ. c'est le fait de poser la nourriture à proximité de l'invité. Pourquoi ? Afin qu'il puisse se servir sans la moindre gêne. Il arrive que lorsque l'invité est là, la personne qui reçoit cet invité lui propose des nourritures qu'elle va poser sur la table, n'est-ce pas ? Seulement, elle va peut-être poser des aliments qui vont être loin de l'invité, et à cause de cela, il ne va pas oser faire le déplacement ou tendre la main pour prendre. Ibrahim, alayhi salam, lui, approche la viande de l'invité afin qu'il puisse la prendre. بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. L'auteur Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, contrairement à ce que certains font lorsqu'ils installent leurs invités dans des places et ils posent la nourriture à d'autres endroits, ça peut être d'autres pièces ou un endroit plus loin dans la pièce, puis ils disent à leur invité, levons-nous et allons au plat. Allons manger. Ibrahim alayhi salam ne fait pas ça. Ibrahim, il pose la nourriture directement devant l'invité. Un peu à l'image de ce que font certains lorsque l'invité arrive, ils ne le laissent pas se lever et aller se laver les mains. Mais c'est eux qui lui apportent un récipient d'eau avec une serviette et ils lui font couler l'eau pour que l'invité se lave sans bouger de sa place, puis lui tendre la serviette. Ça, c'est pour le mettre à l'aise. Et interrogez-les, ils vous diront, c'est pour mettre à l'aise l'invité qu'on fait cela. Qu'Allah les récompense pour ce comportement. وَقَوْلُهُ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Puis Ibrahim, après avoir approché le veau gras, leur a dit, ne mangez-vous pas ? فِيهِ مَدْحٌ وَأَدَبٌ آخَرٌ. Encore une éloge et un bon comportement d'Ibrahim alayhi salam. فَإِنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِمُ الْأَكْلَ بِقَوْلِهِ أَلَا تَأْكُلُونَ. Il leur a proposé la nourriture en leur disant, ne mangez-vous pas ? وَهَذِهِ صِيغَةُ عَرْضٍ مُؤْذِنَةٌ بِالتَّلَطُّفِ بِخِلَافِ مَنْ يَقُولُ ضَعُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الطَّعَامِ كُلُوا تَقَدَّمُوا وَنَحْوُ ذَلِكَ. Il y a une douceur dans la façon de leur proposer de manger. Contrairement, nous dit l'auteur, à ceux qui disent, mets tes mains dans le plat, mange, avance-toi. Ça peut gêner la personne. Mais Ibrahim alayhi salam leur dit, ne mangez-vous pas ? Ils se contentent de leur dire ça. Et aujourd'hui, des fois, quand tu es invité, limite, on te menace pour manger. Mange, mange, et on te force. Et très souvent, et ça c'est une remarque importante, très souvent, on force le malade à manger. Et on lui dit, mange pour prendre des forces. Alors que lui, la nourriture le répugne à cet instant où il est malade. Et à ce moment-là, il ne faut pas dire au malade, mange, mange. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le sens du hadith, la takrahu marda, la tukrihu mardakum. Ne forcez pas, ne contraignez pas vos malades à manger. فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ. Car c'est Allah qui les nourrit et qui les abreuve. Je n'ai peut-être pas donné les termes exacts du hadith, mais c'est un hadith qui est authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. On ne force pas le malade à manger. Car lui, il est dans la gêne de dire non à celui qui l'a invité, alors il va se forcer à manger. Et au final, il va se rendre peut-être plus malade qu'il ne l'est déjà. Ça, il faut le prendre en compte. طيب. L'auteur, rahimahullah, dit, وَقَوْلُهُ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Ibrahim, alayhi salam, il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Pourquoi ? Ils n'ont pas mangé. Et quand ils n'ont pas mangé, Ibrahim a ressenti une certaine crainte vis-à-vis d'eux. لِأَنَّهُ لَمَّ رَآهُمْ لَا يَأْكُلُونَ مِنْ طَعَامِهِ أَضْمَرَ مِنْهُمْ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ شَرٌ. Quand il les a vus ne pas manger de leur viande, il a eu dans son cœur une crainte d'eux à l'idée qu'ils sont venus avec un mal. Pourquoi ? L'auteur nous dit, فَإِنَّ الضَّيْفَ إِذَا أَكَلَ مِنْ طَعَامِ رَبِّ الْمَنْزِلِ
اطمأن إليه وأنس به. Quand l'invité mange le repas que lui offre la personne l'ayant invité, cette dernière se voit réjouie, apaisée, et elle sent que son invité est de bonne compagnie pour elle. فَلَمَّا عَلِمُوا مِنْهُ ذَلِكَ Et quand eux ont compris cela d'Ibrahim alayhi salam, qu'il a ressenti une certaine crainte, قَالُوا لَا تَخَفْ Ils lui dirent, ne crains rien. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ N'aie pas peur, et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Ce n'étaient pas des hommes, mais ils étaient des anges qui ont été envoyés par Allah Azza wa Jalla à Ibrahim alayhi salam. Les anges ne viennent pas pour manger du veau. Mais Ibrahim alayhi salam ne le sait pas. Il leur offre, il refuse, il craint, il les rassure. Et ils lui disent, ne crains rien. Et ils lui firent la bonne nouvelle, lui annoncèrent la bonne nouvelle d'un enfant plein de savoir. L'auteur nous dit, وَهَذَا الْغُلَامِ إِسْحَاقِ لَا إِسْمَعِيلِ Cet enfant c'est إِسْحَاق et ce n'est pas إِسْمَعِيلِ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ لِأَنَّ مْرَأَتَهُ عَجِبَتْ مِنْ ذَلِكِ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لِمِثْلِ Car son épouse a dit, je suis une femme stérile. Une femme comme moi, dans le sens de ce qu'elle a dit, ne peut pas avoir d'enfant. فَأَنَّ لِي بِالْوَلَدِ Comment pourrais-je avoir un enfant ? وَأَمَّا إِسْمَعِيلِ فَإِنَّهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ هَاجَرْ Quant à Ismaïl, il l'a eu de Hajar. Il l'a eu de Hajar, son épouse Hajar. وَكَانَ بِكْرَهُ وَأَوَّلَ وَلَدِهِ Et Ismaïl était son premier enfant. وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةِ هُودِ في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في هذه القصة نفسها Et dans la même histoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Hud, nous montre qu'il s'agissait bien d'Ishaq. Car Allah azza wa jalla nous dit dans le sens du verset, et nous lui annoncèrent l'arrivée ou la naissance de Ishaq, et après Ishaq, Yaqub. Yaqub c'est le fils d'Ishaq. Retenez simplement que cet enfant plein de savoir qui fit la cause de la bonne nouvelle annoncée à Ibrahim alayhi salam, c'est Ishaq alayhi salam. وقوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم dans le sens rapproché. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit, une vieille femme stérile. Vous avez compris son étonnement? Comment pourrais-je avoir un enfant? Qu'est-ce que l'on retire de cela? Ibn al-Qayyim nous dit, فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار. On voit ici le faible raisonnement de la femme et le fait que la femme est instable. Pourquoi? Car après avoir entendu cette nouvelle, à savoir qu'elle allait avoir un enfant, la femme d'Ibrahim alayhi salam s'est empressée de se frapper le visage et de s'étonner de cette nouvelle. Ici, l'on voit le faible raisonnement de la femme et l'instabilité de cette dernière. Vous savez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le raisonnement de la femme. وقالت عجوز عقيم. Et quand elle dit, une vieille femme stérile, qu'est-ce que l'on voit ici? Un bon comportement de cette femme. Quel est-il? فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة فإنها حذفت المبتدأ فلم تقل أنا عجوز عقيم واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالتعجب Cette femme, la femme d'Ibrahim alayhi salam, s'est étonnée de se voir porter un enfant malgré son âge avancé et sa stérilité. D'où ses propos. Mais en tenant ses propos, elle a choisi les mots. Elle n'a pas dit « Je suis une vieille stérile ». Elle a simplement dit « Une vieille femme stérile ». Elle s'est contentée de dire, en s'adressant à des hommes, car à la base, les anges qui sont venus à eux sont sous la forme humaine, la forme d'homme. En s'adressant à des hommes, elle a diminué au maximum les paroles à leur dire et elle a choisi les paroles suffisantes qui l'amènent au but. Une femme, une vieille femme stérile. Et elle n'a pas dit « Je suis une vieille femme stérile ». Elle a enlevé le mot dont la suppression n'est pas éliminative. طيب. وقوله قالوا كذلك قال ربك. Quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsque il nous informe que les anges lui ont alors répondu, ils dirent ainsi a dit ton Seigneur, ou alors ainsi est la parole de ton Seigneur, plus exactement. Ainsi est la parole de ton Seigneur. Mutadamminun li ithbati sifati al-qawli lah. C'est une preuve que parmi les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la parole. Car ces anges ont dit à la femme d'Ibrahim alayhi salam, c'est la parole de ton Seigneur. Ainsi a parlé ton Seigneur. Donc de ce verset, on apprend que parmi les attributs par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala est qualifié, il y a bel et bien la parole. Allah parle quand il veut. Il dit ce qu'il veut, à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu, innahu alim, innahu huwa al-hakim al-alim. C'est lui vraiment le sage, l'omniscient. Mutadamminun li ithbati sifati al-hikma wal-ilm. Alladhayn huma masdar al-khalq wal-amr. Dans ce verset, on voit les deux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala que sont la sagesse infinie et la science parfaite. Et ces deux attributs sont la base de la création et des ordres d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Comment cela ? فَجَمِيعُ مَا خَلَقَهُ سُبْحَانَهُ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ. Tout ce qu'Allah a créé comme être, comme créature, vivante ou inerte. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il l'a créé avec science et sagesse. Avec science, il lui a donné sa juste mesure. Il connaît parfaitement ses créatures. Il sait pourquoi il les a créées. Et ça, c'est la sagesse. وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ وَشَرْعُهُ مَصْدَرُهُ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ. De même, ses ordres et ses interdits proviennent de sa science et de sa sagesse. Ce sont des sagesses où c'est pour la sagesse parfaite qu'Allah nous interdit telle chose, qu'Allah nous prescrit telle autre chose. C'est pour une sagesse et avec une science parfaite et infinie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des ordres et des interdits. وَالْعِلْمُ وَالْحِكْمَةِ مُتَضَمِّنَانِ لِجَمِيعِ الْكَمَالِ. Et la science d'Allah réunie avec la sagesse feront deux attributs qui réuniront toute la perfection d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Comment cela ? فَالْعِلْمُ يَتَضَمَّنُ الْحَيَاةَ وَلَوَازِمَ كَمَالِهَا مِنَ الْقَيُّومِيَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْبَقَاءِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي يَسْتَلْزِمُهَا الْعِلْمُ التَّامِ. Vous savez que la science d'Allah est parfaite. Allah Azza wa Jal sait tout. Il a toujours tout connu. Il sera toujours tout. Il sait toujours tout. Ce qui ne s'est pas passé, Allah sait comment il se serait passé s'il s'était passé. La science d'Allah est parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette science qui est si parfaite implique tous les attributs dits les attributs d'essence. Les attributs attachés à l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme la vie. Car celui qui sait parfaitement, vit parfaitement. Est vivant, pardon, parfaitement. Celui qui sait parfaitement a la puissance qui est parfaite. Il a l'ouïe qui est parfaite, il entend tout. Il a la vue qui est parfaite. Il a les attributs rattachés et qui découlent de la science qui est parfaite. Car quand on dit il sait parfaitement, ça veut forcément vouloir dire qu'il vit, qu'il est vivant parfaitement. Qu'il est vivant parfaitement, subhanahu wa ta'ala. Ça veut forcément dire qu'il est puissant. Ça veut forcément dire qu'il entend tout, qu'il voit tout. C'est ça la science parfaite. والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوهها ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب. Quant à la sagesse, qui est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est si parfaite qu'elle implique aussi les attributs de volonté, tout ce qu'Allah fait par sa volonté, comme la justice. La justice, c'est un attribut d'essence. Comme la justice, c'est un attribut, une âme d'essence. La miséricorde, comme la bienfaisance, comme la générosité, et tout ce qui va dans ce sens-là. Allah Azza wa Jal est si parfait dans sa sagesse qu'il est parfait dans tout ce que vous venez d'entendre. Dans sa justice, dans sa miséricorde, dans sa bienfaisance. Il est parfait dans l'envoi de ses messagers. Il est parfait dans le châtiment qu'il infligera à certains et la récompense qu'il offrira à d'autres. Il est parfait dans tout cela. Et tout cela, ça implique sa sagesse qui est parfaite. Ainsi, quand on unit les deux noms d'Allah, Azza wa Jal, que sont Al-Alim, Al-Hakim, celui qui connaît tout et celui qui est infiniment sage, ça réunit tout ce qui découle de ces deux noms comme attribut parfait. Donc, on vante Allah, Azza wa Jal. Et ça, c'est une science à part entière. Le fait de citer des noms les uns après les autres, c'est loin d'être au hasard. Mais c'est bien choisi avec science par Allah, Azza wa Jal. Par exemple, quand vous voyez qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il est wa huwa al-aziz al-hakim, il est al-aziz. Al-aziz, c'est celui qui a la puissance. Et al-hakim, celui qui est sage, ce n'est pas pour rien. Car chaque fois qu'on va lier un nom à un autre dans les versets, c'est pour nous montrer une perfection avec une autre perfection. Quand on dit al-aziz, celui qui est puissant, est capable, notamment, de se venger. Il est capable de punir. Il est capable de prendre. Il est capable de châtier. Mais Allah est sage. Et la sagesse, c'est le fait de poser chaque chose à leur place. Et c'est le contraire de l'injustice. Et puisqu'Allah est sage, il va utiliser subhanahu wa ta'ala sa puissance avec sagesse, de telle sorte à ce que sa puissance soit utilisée là où il faut. Et il ne fera alors jamais d'injustice avec sa puissance à ses serviteurs. Allah Akbar. Ça c'est la perfection dans les attributs et noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il existe des gens qui sont puissants. Bien sûr, c'est relatif. Ils sont puissants envers ceux qui sont faibles parmi les hommes, n'est-ce pas? Et ils vont utiliser leur puissance dans l'injustice, parce qu'ils ne sont pas sages. Il existe des gens chez les créatures qui sont sages, qui ont de la sagesse, mais ils n'ont pas assez de puissance pour exprimer leur sagesse, n'est-ce pas? Alors qu'Allah Azza wa Jal a les noms et les attributs parfaits, il est puissant et il est sage. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah nous dit: كل هذا يعلم من اسمه الحكيم. Tout cela on le tire de son nom Al-Hakim, qui est infiniment sage. كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا أو سدا أو باطلا. فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب، ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. Donc l'auteur, rahimahullah, nous dit tout cela, le fait qu'Allah est bienfaisant, miséricordieux, juste, bon envers ses serviteurs, qu'il a envoyé des messagers, qu'il va châtier ou récompenser certains ou d'autres. Tout cela dans le Coran, on le trouve avec ce nom qui est Al-Hakim, celui qui est parfaitement sage, subhanahu wa ta'ala. On retrouve souvent, quand on voit que certains renient le retour vers Allah, la sagesse d'Allah va être citée dans les versets, subhanahu wa ta'ala. Car la sagesse d'Allah implique sa législation, son destin, ses ordres, ses interdits, sa récompense, son châtiment, et ainsi de suite. Tout cela, la sagesse d'Allah l'implique, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, d'après le même Ibn Qayyim, que la parole la plus authentique parmi les deux paroles qui ont été dites justement concernant la résurrection, c'est que la résurrection, on la connaît avec le raisonnement. On sait que toute personne douée de raison sait qu'elle va forcément revenir vers Allah. Pourquoi ? Parce que ça serait injuste que toutes ces personnes qui sont injustes et qui font tout ce qu'elles ont envie de faire soit au final au même degré que ceux qui se sont abstenus de désobéir à Allah et qui n'ont pas été injustes, que l'oppresseur et l'opprimé soient pareils finalement. Tu ne peux pas accepter cela. Puis, après cela, les preuves vont venir appuyer ce que ta raison saine a accepté. Car les sahaba, les pieux prédécesseurs, ne jettent pas la raison totalement. Ce qu'ils rejettent, c'est le raisonnement malsain. La raison saine, celle qui suit les textes, Allah Azza wa Jal s'adresse dans plusieurs versets aux gens doués de raison, justement. Ce sont les gens qui ont la raison saine. Walhamdulillah. L'auteur nous dit, وَمَنْ تَأَمَّلَ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ وَجَدَهَا دَالَّةً عَلَى ذَلِكَ وأن الله سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. On voit cette façon dans le Coran. De quoi on parle? On voit qu'Allah سبحانه وتعالى des fois nous donne des exemples. Là, on parle d'exemples qu'Allah nous donne pour nous prouver que aura bel et bien lieu la résurrection, le retour vers Allah, subhanahu wa ta'ala. En nous donnant, nous dit l'auteur, en nous donnant des exemples dans le Coran qui sont perçus, compris par le raisonnement, afin de nous prouver qu'Allah est capable. Un exemple, dans surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala dit la khalqu as-samawati wal-ardi akbar min khalqi an-nas. La création des cieux et de la terre est bien plus grande que la création de l'homme. Qu'est-ce qu'Allah veut nous dire ici? Reviens au tafsir du verset, notamment le tafsir de l'imam Sa'di rahimahullah, tu vas voir qu'ici Allah azza wa jal veut dire à ces gens-là qui ne croient pas en la résurrection, vous croyez, parce que les gens de Quraysh croient en la création d'Allah et mécroient en la résurrection. Donc Allah Azza wa Jal a voulu leur dire, vous croyez qu'Allah a créé les cieux et la terre. Et vous voyez combien la création des cieux et la terre est immense et grande. Comment vous ne croyez pas au retour de l'homme alors que vous avez cru en la création des cieux et la terre qui est plus grand que ça? Donc, si vous aviez un raisonnement sain, vous auriez dû accepter de croire qu'Allah Azza wa Jal va recréer l'homme une seconde fois. Vous avez compris? Donc ici, Allah Azza wa Jal leur donne un exemple qu'ils peuvent percevoir, qu'ils peuvent comprendre, afin de les amener à une réalité qui est, oui, aura bel et bien lieu le retour vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, plus que cela encore, les cieux et la terre sont bien plus grands que la création de l'homme. L'homme, il a déjà été créé. Et vous y croyez. Comment vous ne pouvez pas croire au fait que l'homme va revenir alors que vous croyez qu'il a été créé à partir de rien? Quelle est la chose, d'après vous, votre raisonnement là, la plus difficile? Qu'il vienne de rien? Bien que rien ne soit difficile chez Allah, Azza wa Jal. Mais on parle de vous, les gens de Quraysh, pas vous qui êtes devant moi. Vous qui essayez de raisonner d'une façon malsaine. Qu'est-ce qui est plus dur? Créer à partir de rien ou faire revivre ce qui a déjà été créé? Vous croyez qu'ils ont été créés à partir de rien. Et vous ne croyez pas qu'ils vont revenir vers ou à ce dans quoi ils ont déjà été créés. Donc on voit l'égarement de ces gens-là. L'auteur nous dit ensuite وَمَنْ تَأَمَّلَ أَدِلَّةَ الْمَعَادِ فِي الْقُرْآنِ وَجَدَهَا كَذَلِكَ مُغْنِيَةً بِحَمْدِ اللَّهِ وَمِنَّتِهِ عَلَى عِبَادِهِ عَنْ غَيْرِهَا كَافِيَةً شَافِيَةً مُوصِلَةً إِلَى الْمَطْلُوبِ بِسُرْعَةً مُتَضَمِّنَةً لِلْجَوَابِ عَنِ الشُّبَهِ الْعَارِضَةِ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ. L'auteur nous dit, celui qui médite l'épreuve du Coran, l'épreuve de la résurrection, il les trouvera largement suffisantes et guérissantes et répondantes aux ambiguïtés véhiculées par bon nombre de gens. L'auteur a même dit « وَإِنْ سَاعَدَ التَّوْفِيقُ مِنَ اللَّهِ كَتَبْتُ فِي ذَلِكَ سِفْرًا كَبِيرًا لِمَا رَأَيْتُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا الْقُرْآنُ مِنَ الشِّفَاءِ وَالْهُدَى وَسُرْعَةِ الْإِصَالِ وَحُسْنِ الْبَيَانِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَوَاضِعِ الشُّبَهِ وَالْجَوَابِ عَنْهَا بِمَا يَنْثَلِجُ لَهُ الصَّدْرُ وَيُشْرِقُ مَعَهُ الْيَقِينُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ فَإِنَّهَا عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ التَّفْصِيلِ. Et là, l'auteur a dit, en gros, si Allah me facilite, j'écrirai un très grand livre dans ce sujet-là. J'écrirai un très grand livre dans ce sujet-là, à savoir l'épreuve du Coran de la résurrection, qu'elle aura bel et bien lieu. Et il y a dans ces preuves une guérison, une guidée, une éloquence, et elles apporteront épanouissement à la personne qui les lira, et elles feront grandir sa certitude. Et bien sûr, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a longuement parlé de la résurrection, mais je n'ai pas un livre dans ce sujet particulièrement qui me vient à l'esprit. Allahu a'lam. Il dit ensuite, وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَصْدَرَ الْأَشْيَاءِ خَلْقًا وَأَمْرًا مِنْ عِلْمِ الرَّبِّ وَحِكْمَتِهِ. Ce qui est voulu est de comprendre que l'origine de la création et des ordres d'Allah est sa sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ensuite, وَاخْتَصَّتْ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِذِكْرِ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ لِقْتِضَائِهَا لَهُمَا. Et dans cette histoire, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam qui a reçu les invités, les anges qui sont venus à lui pour lui faire la bonne nouvelle de la venue d'un enfant plein de savoir qui est Ishaq, et le fait de leur avoir offert de cette viande qu'ils n'ont pas mangée, puis l'étonnement de sa femme et tout ce qui est venu après dans cette histoire. À la fin de cette histoire, Allah a cité ces deux noms, Al-Alim, Al-Hakim, celui qui a la science parfaite et la sagesse infinie. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ce sont ces deux noms-là qui ont été choisis dans cette histoire? Car par rapport au contexte, et au sujet de l'histoire, ces deux noms-là conviennent parfaitement à l'histoire. Pourquoi ? لِتَعَجُّبِ النُّفُوسِ مِنْ تَوَلُّدِ مَوْلُودٍ بَيْنَ أَبَوَيْنِ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِمَ عَادَةً. Car les gens vont s'étonner de voir que ces deux parents que sont Ibrahim et sa femme, qui à la base n'ont pas d'enfants en raison de leur âge avancé, vont bel et bien en avoir. وَخَفَاءِ الْعِلْمِ بِسَبَبِ هَذَا الْإِلَادِ وَكَوْنِ الْحِكْمَةِ اِقْتَضَتْ جَرَيَانَ هَذِهِ الْوِلَادَةِ عَلَى غَيْرِ الْعَادَةِ الْمَعْرُوفَةِ. La sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, implique que malgré leur âge avancé, et la stérilité de la femme de Ibrahim alayhi salam, elle en a bel et bien eu un. Et plus encore, cet enfant était un prophète. C'était Ishaq alayhi salam. فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمنة لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. On voit dans ce verset, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a fait la mention de ces deux noms, Al-Alim, Al-Hakim, il connaît tout, il est parfaitement sage, le fait qu'Allah Azza wa Jalla sait et connaît la raison pour laquelle il va donner à cette femme stérile qui s'est étonnée un enfant à ce moment-là. Et il est parfaitement sage et ce n'est pas pour rien qu'il lui donne cet enfant et à ce moment-là. ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط. Puis Allah a fait la mention, toujours dans la suite des versets, de l'envoi des anges qui ont été envoyés pour détruire le peuple de Lout, le peuple de Lout qui s'adonnait à ce crime, wal'iyadu billah, et ce grand péché. Wa irsal al-hijarati al-musawwamati alayhim, et le fait que des pierres marquées ont été envoyées à chacun de ces gens-là qui commettaient le crime du peuple de Lout. Wa fi hadha ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم. Et on voit aussi, donc, dans la suite, là, dans le contexte, lisez Surat al-Dhariyat et vous comprendrez, Inch'Allah, ce que gagne celui qui croit au messager et ce que perd celui qui mécroit en eux. والدلالة على أن على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم. وهذا من أعظم الأدلة دلت على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن ربهم. Et on voit également la véracité des propos tenus par les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici et on reprend demain inshallah. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Afwan. Je vais continuer puisqu'il ne reste pas beaucoup finalement pour arriver au chapitre suivant. Puis l'auteur, rahimahullah, a dit, ثم قال, فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين, فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Finalement, je préfère laisser ça pour demain. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.